Philosophie première par le père Philippe, Saint Joseph, le 17 janvier
85. Je ne reviens pas sur la question, donc, du caractère spécifique de ce que représente la relation, je voudrais simplement préciser par le fait même qu'au point de vue de son être, la relation a un caractère unique. Et comprendre ce qu'Aristote dit quand il dit la relation est l'être le plus ténu. Et on comprend très bien que facilement, on considère que la relation n'est qu'un être de raison. Mais cette chose très difficile à bien saisir, mais qui est quand même très importante, puisque la relation, dans sa spécificité ultime, c'est l'exercice des deux termes corrélatifs. Dans son fondement, elle est facile à saisir, mais le fondement n'est pas la relation. Puisque, de fait, son caractère spécifique ultime, c'est dans son exercice, et que l'exercice, c'est toujours le regard vers un autre. Le regard vers l'autre, l'intelligence le pense. C'est un ordre. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, la relation n'est parfaitement elle-même que lorsque je la pense. Mais elle existe, mais elle n'est formalisée que lorsque je la pense. Relation de similitude, relation d'amitié, c'est relation vers un autre. Ce n'est plus mon être l'autre. Il est relié à moi parce que je le pense. Mais on pourrait se poser la question, quelle est la relation chez un animal? Une vache, quand elle rencontre une vache, elle pense à quoi? Difficile de savoir ça. Compagnon de route. Qu'est-ce que peut être une relation dans le domaine purement sensible? Pas pensable. Alors, c'est ça qui me semble très curieux, c'est que la relation demande d'être portée par l'intelligence. Elle existe vraiment, mais elle est portée par l'intelligence. Je vois très bien que le terme qui est en face de moi est nécessaire pour l'exercice même de la relation. Et donc, c'est cet ordre vers l'autre, dès qu'il y a ordre vers l'autre, c'est l'intelligence. Alors, elle existe dans son fondement, mais son exercice ultime et dernier, il ne peut être formalisé que par la pensée. C'est ce qui me semble très très curieux dans le point de vue de la relation. Alors, elle existe vraiment, mais elle est formalisée par la pensée. Ce qui fait comprendre comment l'intelligence peut elle-même fonder une relation. Et là, vous aurez une relation de raison. Cette fameuse distinction qui est si importante à comprendre, que la relation peut être réelle ou de raison. Et c'est la seule catégorie qui peut être à la fois réelle et de raison. Alors, je vous donne l'exemple pour que vous compreniez tout de suite, et pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Quand je prends l'universel, c'est un être de raison. Ici, une question est universelle. je pense animal, je pense quelque chose qui regarde une multitude. Le chat, la vache, l'homme. Donc, l'animal a une signification une, distincte des autres, et une signification multiple. L'un et le multiple sont liés dans l'universel. Alors que dans la réalité, l'un et le multiple sont distincts. Ça, nous verrons à propos de l'un et du multiple, mais je crois que c'est facile à comprendre. On a son unité, la multiplicité, c'est deux choses différentes. Et nous pouvons distinguer en nous notre unité et notre multiplicité. Alors, l'animal, en tant qu'il est pensé, parce qu'il n'existe que dans ma pensée, animal, l'universel n'existe que dans la pensée. La pensée est le fondement de cette relation tout à fait particulière qui est l'universel. Et l'universel a donc son fondement dans la connaissance, puisque seule la connaissance peut abstraire. Et animal est abstrait de la multitude. Mon intelligence a cette capacité d'abstraire une signification une de toute une multiplicité. Et c'est l'intelligence fait ça. Pourquoi l'intelligence fait ça? Pour le besoin d'unifier. On a un besoin d'unifier en simplifiant, c'est-à-dire en abstrayant. Et quelquefois, ça va très loin, ça. Vous voyez, au fond, pensez au phénomène de l'œcuménisme. L'œcuménisme n'est pas un phénomène de la pensée. Mais très facilement, chez les théologiens, l'œcuménisme deviendra un phénomène de la pensée. Il y a l'œcuménisme du Saint-Esprit et les théocuménismes des théologiens. N'oubliez pas ça. Le cuménisme du Saint-Esprit, je ne sais pas comment il va se débrouiller. Mais le Saint-Esprit veut l'unité. Et il fera l'unité par l'amour. Les théologiens, eux, essaient de faire l'unité en voyant ce qu'il y a de commun et d'amenuiser le plus possible ce qu'il y a de différent. Un procédé tout à fait différent. Et si vous laissiez que les théologiens sans le Saint-Esprit, au bout d'un certain temps, on aurait, comme me disait, je me souviens, une fois, c'était quand j'étais à Étiole, et que je faisais l'autostop, et que j'avais un bon chauffeur de Strasbourg, il s'appelait Blum, et il me dit, oh, c'est génial, le pape Jean XXII, c'est génial, il veut faire une église, des catholiques, des protestants, et des Israélites, il va faire une église, enfin. C'était merveilleux. Alors, je ne peux pas. La manière dont il pensait ça, on va laisser tomber tout ce qui diversifie, puis on va avoir quelque chose de nouveau qui est commun. Le terme commun. C'était merveilleux de voir à la manière dont il avait conçu, lui, l'œcuménisme. Évidemment, c'est pas comme ça que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je crois, fait un œcuménisme par le sommet. Et nous, nous faisons un œcuménisme par la base. Hein. Alors, la base, hein, il y a des gens qui ont des diversités. Il faut laisser tomber le plus possible la diversité pour arriver à l'unité. Un tikoinon, la petite chose commune. C'est ce que nous faisons quand nous abstrayons. Le phénomène de l'abstraction est une chose très, très curieuse, le phénomène de l'abstraction. Nous abstrayons naturellement. Le philosophe doit se rendre compte que l'intelligence abstrait. C'est toute la différence du philosophe et du non-philosophe. Le philosophe comprend que, de fait, l'intelligence a une modalité particulière, c'est le conditionnement propre de l'intelligence. Et l'intelligence a ce conditionnement propre d'abstraire. Et si on laisse l'intelligence à elle-même, elle abstrait tout le temps. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, elle tombera dans une cérébralisation. Le phénomène de la cérébralisation psychologique, c'est l'abstraction pour elle-même, poussée jusqu'au bout, le plus possible. Parce qu'on perd pédale à ce moment-là. L'universel n'existe pas. Il n'existe que dans mon intelligence. C'est bien ça la cérébralisation. c'est qu'on confond ce qui n'existe que dans mon intelligence avec la réalité. Et on perpédale à ce moment-là. Autrement dit, on confond la relation de raison et la relation réelle. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est le passage entre une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste. Elle se fait là. Comment se fait-il que l'idéalisme peut naître ? C'est parce qu'il y a une relation de raison. Vous touchez le fondement même de la possibilité de l'idéalisme. Il y a une relation de raison. S'il n'y avait pas de relation de raison, il n'y aurait pas d'idéalisme. S'il n'y avait pas d'abstraction, il n'y aurait pas de réalisme. Il n'y aurait pas d'idéalisme. Oui. Si notre intelligence n'était que la théorie de Garaudy, par rapport à la connaissance. L'intelligence est le reflet. Pensez toujours à Paray-le-Monial. Ceux qui ont été à Paray-le-Monial voient bien ce que je veux dire. Quand on arrive par le petit fleuve et qu'on y fait beau et qu'on voit la cathédrale dans le petit fleuve, hein, c'est admirable. Alors on voit la cathédrale réelle et la cathédrale reflet. Bon, nous faisons la distinction. Il y a des jours où le reflet est presque aussi net que la cathédrale. Et je me demande si on ne pourrait pas arriver artificiellement à faire que la cathédrale soit cachée par un jour et que le reflet soit plus net. Alors ça expliquerait beaucoup de choses. Ça ferait que le reflet, c'est pour Garaudy, la connaissance est un reflet. L'intelligence est un miroir qui reflète, pas d'abstraction. Étonnant. Alors, pas d'abstraction. Le reflet étant plus net que la réalité est mesurée par le reflet. Et vous comprenez comment l'homme est mesure de toute chose par sa dialectique. Il faut comprendre ça, parce que c'est quand même très important de voir comment on arrive à cette théorie de la dialectique, qui est la mesure du réel. Je n'oserais jamais dire, si je suis réaliste, que l'universel est mesure du réel. L'universel n'est pas mesure du réel, ce qui vient du réel. Ce qui vient d'autre chose ne peut pas être la mesure. L'universel implique l'abandon d'une quantité d'états qui sont dans les individus. Parce que l'universel, c'est justement ce qui rassemble les individus, ce qui fait l'œcuménisme intellectuel. Il y a un œcuménisme animal. Je rassemble toute la diversité des animaux pour arriver à voir l'animal en soi, qui rassemble toute cette diversité, qui laisse tomber tous les détails particuliers de l'individu pour essayer de saisir ce qu'il y a de commun. Ce petit ce qu'il y a de commun, la petite chose commune, c'est l'universel, parce que l'universel dit un. L'unité dans l'universel. Il y a quelque chose d'un qu'on a rassemblé pour saisir. Bon, la naissance de l'universel, c'est la naissance de l'être de raison. Et c'est ça qui m'intéresse. L'universel est un être de raison. Ça, c'est Saint-Thomas qui nous assiste comme ça. Et ça, c'est propre à Saint-Thomas. Ça n'a jamais été dit avant. Ça, c'est caractéristique de Saint-Thomas. Avant, on dit des intentions de raison. Et Saint Thomas dit être de raison. Ens ratione. C'est ça, le langage de Saint Thomas. Ça, c'est historiquement, c'est très intéressant. De voir que Saint Thomas parle de l'universel comme ens rationis. Cet ens rationis, c'est une relation de raison. Et cette relation de raison est une relation. Je ne dis pas que c'est une relation réelle, ce serait faux. Mais c'est une relation, formellement, c'est une relation. Et donc, formellement, elle peut apparaître comme plus pure que la relation réelle. C'est un art absolument parfait, dont le fondement est la connaissance. Le fondement, c'est la connaissance. C'est mon intelligence qui élabore et qui est capable d'élaborer cet être de raison. Cet être de raison se fonde sur la connaissance Et cet être raison fait que la multitude se ramène à l'unité. Vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est ça qui fonde toutes les connaissances scientifiques. S'il n'y avait pas l'être de raison, s'il n'y avait pas l'universel, il n'y aurait pas de science. C'est le fondement de la science. Pourquoi la science existe-t-elle ? C'est parce que l'intelligence est capable, et elle le fait naturellement. Ça, on ne l'a pas appris. C'est très, très connu. C'est naturel. Quand vous commencez à parler, vous n'avez pas réfléchi que la parole implique l'être de raison. S'il n'y avait pas l'être de raison, il n'y aurait pas la parole. Si l'intelligence était reflet de la réalité, il n'y aurait que le troc. Il n'y aurait pas la monnaie, l'analogue de la parole. C'est très très curieux ces choses-là, mais c'est très intéressant parce que ça montre que la théorie de Garaudy ne vaut rien. Elle n'explique pas le langage. Vous n'expliquez pas le langage quand vous prenez l'intelligence reflet de la réalité. Pour découvrir ce que c'est que l'intelligence qui assimile, et en assimilant, il y a toujours un rejet. Vous savez bien, le jour où vous ne rejetez plus rien, dans l'assimilation, qu'est-ce qu'il y a ? Vous commencez à vous empoisonner. L'empoisonnement, c'est ça. C'est qu'on ne fait plus le discernement de ce qui est assimilable et de ce qui n'est pas assimilable. C'est très curieux. Donc la théorie de Garaudy, c'est l'empoisonnement de l'intelligence. Et c'est vrai, c'est ça, il n'y a pas de Garaudy, c'est toutes les dialectiques. Ce qui est vrai, ce que dit Garaudy, serait vrai de l'hégélianisme. C'est l'empoisonnement. L'intelligence ne fait plus, elle ne rejette plus ce qui est inassimilable. Et l'intelligence, naturellement, comme une bonne petite, naturellement, ce qui est naturel provient du générateur. Tout ce qui est naturel provient de sa source. Et la source de l'intelligence, c'est Dieu. Et quand l'intelligence agit naturellement, elle agit, entre guillemets, divinement. Et agir divinement, c'est agir selon ses exigences propres. Elle rejette ce qu'elle ne peut pas assimiler, et elle assimile ce qui est capable d'être assimilé. Qu'est-ce qui est capable d'être assimilé ? Toti-en-ei-nai. Vous voyez bien l'intérêt du toti-en-ei-nai, la quiddité. C'est ce que l'intelligence est capable d'assimiler. Fallait le trouver. Une fois que c'est dit, ben c'est facile, on le répète. Mais quand on le répète, il faut le comprendre. Autrement, on n'a pas le droit de répéter. Sauf pour les examens. Mais en dehors des examens, on ne répète que ce qu'on comprend. Eh bien, ce qui est assimilable, c'est le toti-en-ei-nai. Tout ce qui est en dehors du toti-en-ei-nai n'est pas immédiatement assimilable. Ce qui est immédiatement assimilable, c'est le toti-en-ei-nai. Alors, vous comprenez le fondement de l'universel. C'est la signification, ce qui est assimilé de la réalité. C'est ça l'universel. C'est une chose merveilleuse, l'universel. Philosopher sur l'universel, c'est comprendre le fondement de la science. Le fondement de toute connaissance et de tout langage. Parce que le langage est universel. Il y a comme une table, c'est universel. Il y a des tables style Louis XIV et des tables style École Saint-Jean. Ça fait deux tables totalement différentes. Hein. Vous voyez bien, donc, alors là, vous voyez bien l'universel, parce que si vous n'aviez pas l'universel, vous seriez obligé d'avoir table, vous serez Louis XIV, table, je ne sais pas comment on dirait, il y aura un mot particulier qui unirait les deux. Et alors vous n'auriez que cet instrument particulier de la table Louis XIV. Et vous auriez cet instrument spécial de la table École Saint-Jean. C'est tout à fait différent. L'universel permet d'unir les deux. C'est pas invraisemblable. Cette soif d'assimiler, de saisir le petit koinon, ce qui est commun. Vous commencé à comprendre l'œcuménisme des intellectuels et l'œcuménisme du Saint-Esprit. Ce serait très intéressant de faire un petit article sur l'œcuménisme du Saint-Esprit et l'œcuménisme des intellectuels, avec la différence, vous voyez, c'est que le Saint-Esprit agit par l'amour et les intellectuels agissent toujours pour chercher ce qui est commun, en abandonnant le plus possible ce qui est de propre. Alors on aurait l'œcuménisme Bloom, n'est-ce pas, qui serait tout à fait celui qui ferait cette espèce de synthèse par le bas. Alors, nous sommes donc en présence de la naissance d'une relation de raison. La relation de raison première, c'est l'universel. Vous voyez, cette chose curieuse, c'est que la relation peut être réelle ou de raison. Elle est de raison quand son fondement est dans la connaissance. Elle est réelle quand son fondement existe en dehors de la connaissance. Et vous voyez que des deux côtés, le fondement joue ce rôle de la détermination de la spécification. Mais c'est intéressant de voir que justement, il peut y avoir une relation de raison. S'il peut y avoir une relation de raison, ça prouve que justement, l'intelligence est capable de créer des relations. Et l'intelligence crée des relations. L'universel, c'est l'intelligence qui l'a créée. La seule chose que vous pouvez créer, c'est l'universel. Ça, vous pouvez le créer. Dès que vous connaissez, vous formez l'universel. Ça provient de l'intelligence. Vous n'avez jamais vu l'universel. Je crois qu'il serait un spectre extrêmement dangereux à rencontrer. L'universel, vous ne voyez pas. Impossible à rencontrer. Et c'est l'intelligence qui crée cet être de raison. Et cet être de raison, il est une relation. Formellement, il est une relation. Mais une relation qui n'existe que dans mon intelligence. Qui ne peut pas exister en dehors de mon intelligence. Alors, relation de raison. Vous ne pouvez pas parler d'une qualité de raison. Vous ne pouvez pas parler d'une substance de raison. Vous ne pouvez parler que de la relation de raison. C'est donc le pont commun entre le réalisme et l'idéalisme. Le jour où vous ramenez tout à l'universel comme l'élément fondamental de toute votre vie intellectuelle, vous êtes dans l'idéalisme. Le jour où vous discernez l'élément premier de toute votre vie intellectuelle est l'élément premier de ce qui est, alors vous commencez à entrer dans le réalisme. Le réalisme implique cette distinction des deux. Puisque le réalisme ne rejette pas l'intelligence. Le réalisme, c'est pas dire que l'intelligence, c'est le reflet de toute chose. Le réalisme, c'est comprendre que dès que l'intelligence connaît quelque chose, elle le transforme, parce qu'elle l'assimile. Et elle le transforme à sa manière. Elle met sa marque sur toute chose. Dès que vous connaissez quelque chose, vous mettez votre marque d'intelligence humaine, qui abstrait. C'est le conditionnement de ma vie intellectuelle. Alors ça, c'est très important de comprendre la naissance de l'être de raison. Et de comprendre que l'être de raison est une relation de raison. Ça vaut la peine d'y réfléchir, hein, et de voir que tout de suite, alors ça c'est aussi, je vais tout de suite le dire ici immédiatement, de voir que dès que l'universel apparaît, il apparaît tout de suite dans une diversité. Mais l'universel de l'universel, si j'ose dire, hein, il est tout de suite au carré. Parce que l'universel, quand je prends l'universel générique, c'est l'universel fondamental, l'universel spécifique, qui implique la différence spécifique, l'universel du propre et l'universel de l'accident. Les cinq modalités de l'universel, ce qu'on appelle les prédicats. Je reprends tout le temps pour que vous arriviez à comprendre ce que c'est que cette toile d'araignée qui est dans l'intelligence par où je capte les choses. Je capte les choses fondamentalement de cinq manières. Même quand on ne l'accepte pas, c'est inscrit dans le langage. Faites une analyse du langage de n'importe quel article de journaliste. Il ne pense pas aux prédicables, mais il les utilise sans savoir ce qu'il fait. C'est pour ça que de temps en temps, il se trompe. Parce que c'est vrai, regardez dans le langage. Pierre est intelligent. Pierre est un homme. Pierre est raisonnable. Il est prudent. Pierre, il a un chapeau de la mode de 1800. Et Pierre est capable de réaliser tel tout le langage est fait de ça. Les cinq prédicats qui sont la manière dont l'intelligence saisit. Alors vous voyez bien, le propre de la science, hein, puisque nous sommes là, le propre de la science, c'est d'éliminer l'accidentel. L'accidentel n'est pas assimilable au niveau scientifique. C'est du rejet. Un vrai savant, et la science, quand elle est science, elle rejette l'accidentel, parce que l'accidentel ne me dit rien sur ce qu'il y a d'essentiel. Et la science, au fond, ne saisit que le propre. La différence spécifique, la spécificité, la science ne le dit pas. La philosophie seule peut le dire. C'est la différence entre la philosophie et la science. La philosophie seule peut le dire, parce que la philosophie regarde l'homme. Et il n'y a que pour l'homme que je peux préciser la différence spécifique et l'espèce. Seulement pour l'homme. C'est curieux. Mon intelligence est parfaitement elle-même que quand elle regarde l'homme. Quand elle regarde la vache, pas entièrement. Mon intelligence n'est pas faite pour regarder premièrement la vache. Mais mon intelligence est faite pour premièrement regarder l'homme. L'intelligence d'Adam n'a été satisfaite que quand il a regardé elle. Avant, elle n'était pas satisfaite. Il y avait un vide, une différence spécifique. Et la chose, il ne l'a pas dit, c'est pas dit dans la réalité, mais c'est pas, il y avait un vide. Il ne pouvait pas. Tandis quand il dit « os de mes os, chair de ma chair », différence spécifique. Merveilleuse. Alors il a découvert qu'il y avait quelqu'un qui était en face de lui et qu'il était fait pour le regarder. Notre intelligence est faite pour regarder l'homme. En premier lieu. Et seule la philosophie, c'est ça ce qui est intéressant, seule la philosophie peut dire ça. Le savant ne peut pas. Le savant, il regarde le propre et l'aspect générique. Voilà le domaine du savant. C'est l'aspect générique et l'aspect du propre. Et toute la science se compose comme ça. Et plus la science est science, plus le propre gagne sur le genre. Et plus la science est imparfaite, plus le genre l'emporte sur le propre. Progrès de la science est là. Ça, c'est fondamental. Une fois que vous avez compris ça, bien oui, ça permet d'avoir un peu plus de lucidité. Et vous voyez très bien que fondamentalement, vous voyez la différence entre la connaissance philosophique qui, elle, se sert des cinq prédicables. L'intelligence n'est parfaitement développée que dans la philosophie. Dans la science, elle n'est pas parfaitement développée. Puisque de fait, elle ne peut pas regarder l'homme. Alors elle regarde la vache. Philosophie du vivant, les vivants. Elle regarde les étoiles. C'est une autre constatation. Mais c'est très beau, c'est très beau. Au point de vue de la beauté, c'est quelquefois plus beau que l'homme. Mais c'est pas ce que, pourquoi l'intelligence est faite en premier lieu. C'est plus lointain, ça a toujours un attrait. Les choses qui sont immédiatement proches de nous, c'est quelquefois plus gênant, n'est-ce pas ? Tandis que là, alors, ça c'est propre à la philosophie, là, la science, le propre. Et les accidents, c'est l'artiste. Il récupère les accidents, l'artiste. Ça c'est l'artiste. C'est un merveilleux caricaturiste. Il récupère l'accident. Il a un point de vue scientifique, sans aucune espèce d'importance, qu'il a un nez extraordinaire. C'est tout à fait accidentel. Mais au point de vue artistique, oh, c'est capital. Il n'avait rien vu, il n'avait pas vu son nez. Il a vu qu'il était un homme, sans aucun intérêt au point de vue artistique, comme vous. Au point de vue artistique, l'homme, c'est l'aspect générique. Il est juste un animal, tout le monde le sait. Tandis que le nez, ou l'œil du cyclope, la couleur des cheveux, mais c'était tout, il avait une crinière extraordinaire, c'était ça qui était intéressant, l'accident. C'est très curieux, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous fait comprendre, et ça vous fait comprendre comment l'art existe, parce que l'accident peut être universel. Et propre de l'art, c'est de montrer que l'accident est universel. C'est propre de l'art. Si l'accident n'était pas universel, il n'y aurait pas d'art. C'est extrêmement intéressant de voir comment l'être de raison, l'universel, voyez, fonde toute la vie de l'intelligence. Fondamentalement, c'est pour ça que l'être de raison, l'universel, est quelque chose de très important pour nous. Tant qu'on n'a pas été jusque-là, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est la relation qui fait comprendre ça. Vous comprenez que l'intérêt de la relation, c'est capital pour notre vie pratique, mais c'est capital pour notre vie intellectuelle. Parce que c'est le fondement. C'est le fondement de notre vie intellectuelle. Dans les différents domaines. Alors, la prudence, c'est allier l'accidentel et le propre. Une connaissance affective. Et l'homme prudent, c'est ça. L'homme prudent, c'est celui qui sait qu'il y a des accidents. Vous êtes souverainement imprudent quand vous ne regardez que ce qu'il y a de propre. C'est quand on veut remplacer la prudence par la science. Mono. Il veut remplacer la science, il veut remplacer la prudence par la science. Alors à ce moment-là, vous oubliez qu'il y a des accidents. Et au bon tournant, vous glissez, vous allez dans le fossé. Parce que normalement, la route est propre. Scientifiquement parlant, une route est faite pour qu'on roule à telle vitesse. Vous pouvez faire du 110, oui, faites du 110. Peu importe, il y a de la gelée, aucune espèce d'importance, elle est faite pour du 110. La science, hein, c'est ça. La connaissance, c'est ça. La prudence, je n'ai pas à regarder. Non, ça, c'est accidentel. Donc, ça n'a rien à voir. Non. C'est accidentel. Le propre de la prudence, c'est d'allier l'accident et le propre. L'artiste ne regarde que l'accident. Et le prudent ramène l'accident au propre. Parce que c'est par le propre que je saisis la finalité. Et je peux ramener le point de vue scientifique. Par l'accident pur, non. Mais je dois tenir compte de ça. Vous voyez, ce jeu des diverses connaissances. Et la connaissance affective, elle s'intéresse à l'accident. Parce que quelquefois, une personne m'a intrigué uniquement en fonction de sa mèche de cheveux. Ça arrive, ça, que voulez-vous. Ou à cause de ses yeux bleus. C'est accidentel. Ah, vous avez aimé telle personne à cause de ça ? Oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'il était rationnel. Hein. Oh non, 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 non. Non, non, c'est pas du tout à cause de ça. C'est tout à fait autre chose. L'accident intrigue. Il intrigue au point de vue artistique, il intrigue au point de vue affectif. C'est curieux, ces choses-là. Il faut comprendre. Il faut comprendre que, de fait, nous sommes saisis affectivement par le point de vue accidentel, parce que c'est plus immédiat, c'est la qualité. La qualité est un accident. La qualité peut devenir impropre, mais elle peut être aussi un accident. Toutes les qualités sensibles. Bon. Alors vous voyez, ça c'est très important. Hein. Réfléchissez sur la relation de raison et la relation réelle, en voyant les fondements différents. Alors, maintenant, je voudrais préciser avec vous divers types de relations en fonction des caractères propres de leur fondement. Alors, on va diversifier les relations, forcément, en fonction du fondement lié au terme corrélatif. Alors, on distingue les relations dont le fondement est quantitatif, les relations d'égalité et d'inégalité. Ça, c'est les grosses relations faciles à comprendre. Je pèse l'individu, je sais qu'il pèse tant. Un autre pèsera moins ou plus. Relation d'égalité ou d'inégalité. D'autres relations ont un fondement qualitatif. C'est déjà beaucoup plus subtil. Pierre a des vertus semblables à celles de Jacques. Une intelligence semblable, des goûts semblables. une beauté semblable. Ces relations de similitude se diversifient suivant les diverses espèces de qualités. Ça, nous verrons les diverses espèces de qualités comme fondement des diverses relations. Peut-il y avoir d'autres fondements fondant les relations de types différents? Donc nous avons qualité, quantité, ça c'est très net, très facile. Alors, la substance ne peut être fondement propre et immédiat d'une relation. Elle ne peut l'être que par l'intermédiaire d'une opération. Il ne peut pas y avoir de relation immédiatement sur la substance. J'allais dire, sauf en Dieu. Alors ça, c'est la théologie. En Dieu, vous dites qu'il y a une relation à cause de la procession du Père à l'égard du Fils, et cette relation, elle est substantielle. Donc elle se fonde sur la substance. Mais c'est une relation qui n'est plus un accident. C'est une relation qui est la substance elle-même. Et donc là, tous les cadres cassent. Et je suis devant un mystère qui échappe complètement à mon intelligence. Parce que unir substance et relation, mon intelligence ne peut pas le faire. Mon intelligence peut simplement dire, c'est pas contradictoire. Pas contradictoire, puisque toutes les deux sont être. Donc c'est pas contradictoire. L'être peut embrasser l'être. Telle forme d'être peut embrasser telle autre forme d'être. Ils peuvent s'unifier. Donc c'est pas contradictoire. Mais je ne peux pas savoir où ça existe, parce que je l'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu la fusion de la substance et de la relation. Il faut des hauts fourneaux. Extraordinaire. Eh bien, c'est le haut fourneau de la très sainte Trinité, n'est-ce pas, qui fait la fusion de la substance et de la relation. Et alors, à ce moment-là, il y a une fusion. Fusion extraordinaire. Dans l'unité absolue de l'amour. Dans l'unité d'être. Ça, alors, philosophiquement, j'en parle pas. Je peux pas en parler. Mais je mets ça entre parenthèses. Parce que c'est toute la grande théologie de la très sainte Trinité. Vous comprenez que la théologie de la très sainte Trinité, si vous ne savez pas ce que c'est que la substance, que n'est pas la relation, vous ne pouvez rien en dire. Et ce professeur de théologie qui commençait à dire à l'Institut catholique de Paris, nous allons faire le traité de la très sainte Trinité dans la lumière de la philosophie hegélienne. Saint Thomas l'a fait dans la lumière de la philosophie aristotélicienne. Aujourd'hui, Aristote est périmé, nous sommes dans la philosophie hegélienne. Faisons la très sainte Trinité dans la lumière de la philosophie hegélienne. Textuelle, ça m'a été rapporté, je n'ai pas assisté, mais c'est quelqu'un qui a assisté à ça. Alors évidemment, le lendemain, il n'est plus revenu. N'est-ce pas ? C'est philosophie hegélienne, faire la très sainte Trinité dans la philosophie hegélienne. Songez un peu ce que ça peut faire. L'être et le devenir qui enveloppe l'être et qui emporte l'être. Alors voyez ce que ça peut être. La philosophie, du moins la théologie de la très sainte Trinité, dans la lumière de saint Thomas, c'est la fusion de la substance et de la relation. Cette fusion étonnante, c'est la fusion de l'être et de l'amour. Alors c'est la fusion des deux et l'unité des deux. Mais faisons attention, tant que nous parlons, nous maintenons toujours ces deux axes. Quand vous voyez la fusion, vous ne pouvez plus vous taire. On ne peut plus rien dire. Parce que ça m'échappe complètement. Mais je vois la voie d'accès par laquelle, de fait, la très sainte Trinité se révèle à moi. Elle se révèle dans l'unité, la substance. Elle se révèle dans la diversité, la relation. Et les deux peuvent être unis, ce n'est pas contradictoire. Mais je ne comprends pas la fusion. Au plan philosophique, je vois que donc la relation ne peut pas être fondement propre immédiat d'une relation. Elle ne peut l'être que par l'intermédiaire d'une opération. Soit la procréation, soit la connaissance que l'on a de soi-même. Dans le premier cas, on a une relation réelle de paternité, de filiation. ou de maternité de filiation. Dans l'autre, on a une relation d'identité qui est une relation de raison. L'identité aujourd'hui, n'est-ce pas ? On perd son identité aujourd'hui. J'espère que vous ne l'avez pas perdu, mais aujourd'hui, c'est la crise de l'identité. Vous voyez, c'est extraordinaire ces choses-là, ces slogans. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une relation ? Qu'est-ce que c'est que l'identité ? C'est une relation de raison. Alors il y a une crise de la relation de raison. Je comprends. Parce qu'on n'arrive plus à se retrouver. On n'arrive plus à savoir ce qu'on est. Mais ce n'est pas dans l'identité que vous avez ce que vous êtes. C'est dans votre finalité. Dans votre identité, vous ne saurez jamais. Parce que vous n'êtes pas le même consciemment le matin et le soir. C'est sûr. Et quand vous vous réveillez le matin, vous vous demandez, est-ce que je suis le même que celui qui s'est endormi hier au soir ? Là, il y a une petite crise. Vous arrivez en retard à l'oraison. C'est impossible autrement. Il y a une crise. Est-ce que je suis le même qu'hier au soir ? Alors, je commence à m'arrêter. Est-ce que je suis le même ? Vous voyez, c'est très curieux, l'identité. Ça vaut la peine, au point de vue relation de raison, de savoir ce que c'est que l'identité. Qu'est-ce que c'est que cette identité ? Savoir comment je suis le même, hein, à travers la continuité et la durée de ma vie. À travers la multiplicité de mes opérations, je suis le même. Je suis le même quand je parle à Jacques, quand je parle à Pierre. Je suis le même. Pourtant, je n'ai pas tout à fait le même langage. Quand je parle à mon supérieur ou quand je parle à mon inférieur, si je suis des cadres, je n'ai pas le même langage. Où est mon identité ? Quand j'aime quelqu'un et que j'aime une autre personne, j'ai un secret et j'ai un autre secret. Comment tout ça s'unifie ? Alors quelqu'un qui ne vit que de relations, au bout d'un certain temps, ne sait plus du tout où il en est. Il se trompe de tiroir. Ça, c'est la grande gaffe. Parce qu'alors, il ne sait plus. Il a perdu son identité. La crise de l'identité, c'est, je crois, la perte de la substance. Parce que notre personne est autonome à l'égard de sa substance. Alors quand vous avez perdu l'autonomie, vous avez perdu votre identité. Parce que vos relations multiples, où est-ce que vous les unifiez ? Dans votre substance et grâce à votre finalité. Alors là, vous arrivez à vous rejoindre. Alors nous y verrons la fois prochaine comment l'action et la passion fondent des types de relations particulières qui sont particulières et qui sont intéressantes à voir.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure.